Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Éric Ciotti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député des Alpes-Maritimes, vous êtes président de la commission d'investiture des Républicains. Question directe, parce qu'on en parle depuis plusieurs jours, avez-vous décidé de vous présenter à l'élection présidentielle ?
Oui, je l'ai décidé. Je serai candidat à la primaire de la droite pour désigner notre candidat, un candidat commun, bien entendu, pour l'élection présidentielle, pour sortir notre pays de la pente du déclin, pour redonner un espoir à cette France qui décline. Et je souhaite être candidat, je souhaite être candidat pour porter des idées de droite. Mon cap est à droite et mon objectif est simple, que la France reste la France. Aujourd'hui, je vois avec désespérance ce pays que j'aime passionnément décliner. Au plan industriel, au plan de sa place dans le monde. Je vois la violence gagner nos quartiers. 12 morts depuis le début juillet à Marseille. Je vois le communautarisme islamiste continuer à gagner des territoires et des âmes. Je vois tellement de secteurs où la France était en première ligne. Je pense au nucléaire, je pense à notre puissance industrielle, aujourd'hui s'affaiblir avec une accélération très forte. Et puis je vois aussi les Français paralysés dans leur liberté, dans leur initiative, empoisonnés par une paperasserie, une bureaucratie paralysante, avec des charges qui pèsent sur ceux qui travaillent. Il faut porter ce projet pour plus d'autorité, pour plus de liberté, pour plus d'identité. Et je veux qu'il y ait une voix à droite, clairement, fortement, sans honte. Je suis de droite, je ne m'excuse pas de l'être, et je crois que nous devons avoir ce message à droite dans la primaire. Bien. Et c'est ce que je veux porter et incarner.
Bien, nous allons parler des sujets d'actualité. Maintenant, votre candidature est officielle. Nous allons parler des sujets d'actualité, de l'Afghanistan, du Covid, et du déclin, oui ou non déclin. Mais parlons un peu de politique, faisons un peu de politique. De plus en plus de candidats à droite, franchement. N'est-ce pas la foire d'empoigne ? Parce que je vois Valérie Pécresse, Philippe Juvin, bientôt Laurent Wauquiez, Michel Barnier, Bruno Retailleau, David Lisnard, vous, et je n'oublie pas Xavier Bertrand qui n'est plus aux Républicains, mais qui est quand même un candidat de droite. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup ?
Pour vous, c'est une faiblesse. Pour d'autres, non, ça
pour
peut.
Moi, je vous pose la question. Je porte pas de jugement.
Pour
mais
le commentaire actuel,
oui.
Je pense que.
Mais pour les Français.
La sélection de ces
c'est
candidats.
Une pagaille.
D'un candidat amènera à plus de force. Voilà.
Mais comment allez-vous le sélectionner, ce candidat ou cette candidate ?
Par le processus de primaire qui est engagé. Aujourd'hui.
Il y aura une primaire.
Très clairement. Il y aura naturellement une primaire, dans la mesure où aucun candidat, et c'était un peu le souhait de Christian Jacob, qui maintient avec beaucoup de force l'unité de notre famille politique, parce que notre famille politique, elle est unie, elle a gagné les élections régionales, elle a gagné les élections municipales, elle est là, c'est le premier parti militant de France. On n'a pas une personnalité qui s'impose naturellement. Personne ne s'impose naturellement.
C'est pour ça que vous êtes candidat ?
Donc, pour porter des idées, parce un candidat qui spontanément réunit toutes les qualités pour s'affirmer comme le leader vers lequel tout le monde converge, comme ce fut le cas derrière Nicolas Sarkozy ou François Fillon. Mais François Fillon, il y a eu aussi un processus de sélection. Donc aujourd'hui, on engage ce processus de sélection. Tout le monde se mettra d'accord. Et je fais le pari devant vous, parce que chacun a un esprit de responsabilité. Et j'ai discuté que, à la sortie de ce processus, il n'y aura qu'un candidat au tournant de la fin de l'année, ou du début de l'année 2022. Et ce candidat aura d'autant plus de force qu'il aura parcouru lui-même devant les Français ce long chemin pour bénéficier d'une confiance plus forte.
Est-ce que Laurent Wauquiez sera candidat ? Vous avez des infos là-dessus ?
Je ne le sais pas.
Vous ne le savez pas.
Je pense plutôt qu'il le sera.
Il a des idées. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, lui, marche de son côté. Comment voulez-vous qu'en janvier tout le monde se retrouve ? Et s'il y avait deux candidats à droite?
C'est pas
deux
possible.
Deux candidats à droite, si c'est pas possible.
S'il y a deux candidats à droite, c'est même pas la peine d'y aller. On n'aura aucune chance. Donc chacun fera preuve de responsabilité. J'ai discuté avec tous ceux qui sont aujourd'hui en lice.
Pécresse, que,
j'ai vu Xavier Bertrand,
Wauquiez,
j'ai vu Valérie Pécresse cet été. Ils sont tous animés par un esprit de responsabilité. Et on le sera tous, et en tout cas personnellement, je le serai avec cette volonté de porter encore une fois, moi ce qui m'importe, c'est que, alors que la France, les Français adhèrent de plus en plus, massivement, aux idées qu'on peut qualifier de droite. Plus de sécurité, plus d'autorité, refuser la submersion migratoire, faire en sorte qu'on retrouve une identité. Moi, je propose, par exemple, qu'on revienne sur le droit du sol au profit du droit du sang. Parce que on voit bien que l'âme française, aujourd'hui, se délite.
Nous vivons un grand remplacement ?
Oui, nous vivons une forme de...
Vous adhérez d'ailleurs à cette idée du grand remplacement ?
Les chiffres le démontrent, que notre société, parce que nous accueillons aujourd'hui des étrangers, c'est pas tellement le problème d'accueillir des étrangers, c'est de ne pas avoir la capacité de les assimiler, de faire en sorte qu'on ait des Français un peu par hasard, qui viennent, regardez, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, plus de 2 millions de titres de séjour, donc c'est-à-dire une immigration légale sera arrivée en France, sans compter ceux qui se trouvent en situation illégale. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible qu'on ait la nationalité de façon automatique. Ce n'est plus possible qu'on ait des titres de séjour de façon automatique. Ce n'est plus possible qu'il n'y ait plus d'expulsion. Donc il faut aujourd'hui qu'il y ait une droite forte qui mette un terme
à
cette
dérive. Si vous gagnez cette primaire, Éric Ciotti, est-ce qu'il serait logique que Xavier Bertrand, Valérie Pécresse se rangent derrière vous? Oui.
Vous leur poserez, la question.
Oui, je poserai la question, éventuellement.
On aura un débat, en tout cas.
Oui.
Moi, ce que je souhaite, c'est que, on ait des idées. Pour gagner, il faut des idées fortes. Et il faut une incarnation. Bon. Moi, je porte ces idées aujourd'hui. Et, les droite, échanges, les débats qu'on aura, conduiront à une incarnation. J'ai la faiblesse de le croire.
Bon. Éric Zemmour, candidat, vous y croyez?
C'est à lui de le dire. C'est une démarche qui est un peu différente de la nôtre.
Oui, enfin,
voilà.
Beaucoup de vos électeurs pourraient voter pour lui, vous le savez.
J'ai de l'amitié pour Éric Zemmour.
Oui.
Il a du courage. Il a des convictions et des idées auxquelles très souvent je partage.
Oui.
Voilà. Après, c'est son choix.
Vous pourriez travailler avec lui.
C'est son choix. Moi, je suis dans ma famille politique. Je crois qu'Éric Zemmour ne participera pas à la démarche que nous avons en commun décidée, celle d'une primaire. Donc à partir de là, moi, vous savez, j'ai toujours été fidèle à ma famille politique. C'est aussi ce qui fait mon ADN. J'ai adhéré au RPR à 16 ans, parce que mon grand-père était gaulliste, prisonnier de guerre. Il vouait une admiration dans son village de Saint-Martin-Vésubie sans borne au général de Gaulle. J'ai été nourri, de façon familiale, par cette conviction, par cet amour de la France. Je n'ai jamais varié. Je n'ai pas lâché ma famille pour être sensible aux sirènes du macronisme, comme l'ont fait...
À Christian Estrosi, évidemment.
Comme l'ont fait certains.
Oui, c'est certains, aussi. Dites qui ?
C'est aussi mon engagement.
Oui.
Jamais d'alliance avec Emmanuel Macron, parce que on va dans une primaire pour notre famille politique. Moi, je considère que le quinquennat d'Emmanuel Macron aura été un quinquennat inutile et dangereux. Mais c'est essentiel. Donc, moi, la fidélité, elle est importante. Je suis dans ma famille politique. J'ai la conviction que seul les Républicains, ou ceux qui en sont proches, ou qui ont été, je pense à Xavier Bertrand, ont la capacité de diriger demain le pays pour le redresser. C'est Éric pas Ciotti. Emmanuel Macron qui pourra le faire.
Éric
On a
Ciotti.
Vu le bilan. Je crois pas que ça soit Marine Le Pen, pas plus. On a vu sa perte de crédibilité aux élections régionales. Donc il n'y a qu'un axe. Si on ne veut plus Macron, il faut que ce soit un candidat issu de la droite républicaine, mais avec des idées fortes. que nous arrêtions le filet tiède pour aller vers les Français.
Alors justement, idée forte, l'Afghanistan, le Premier ministre vient de l'indiquer, dernier vol français de rapatriement demain, vendredi, une centaine de Français rapatriés, 2500 Afghans, c'est une fierté pour vous ? C'est un devoir.
Le rapatriement de ceux qui ont travaillé avec la France.
Et 2500 Afghans, il fallait.
Oui, je l'ai demandé au tout début de cette crise. Ceux qui ont travaillé, qui nous ont aidés sur place, qui ont été des traducteurs, qui ont facilité le travail de l'armée française, de la diplomatie. Je veux rendre hommage à l'ambassadeur sur place. Je veux rendre hommage à ses équipes qui ont fait un travail courageux, difficile. Bien sûr que ces personnes, c'est l'honneur, le devoir de la France de les protéger. Mais après, il faut faire preuve de lucidité. On ne peut pas accueillir tout le monde. Ce qui s'est passé est d'une extraordinaire gravité. On se rappellera de cette chute de Kaboul, de cet hélicoptère américain.
20 ans après le 11 septembre 2001.
C'est une déroute totale.
C'est l'Occident qui a perdu la guerre contre le djihad ?
Oui, c'est une défaite de l'Occident. La portée symbolique de cette retraite, elle est gigantesque. Elle aura des conséquences immense, elle va réactiver des braises terroristes dans le monde entier. Et je crois que le choix américain est un choix désastreux et l'absence européenne
que nous avons partagé,
oui,
que Nicolas Sarkozy a partagé, que François Hollande a partagé, non, qu'Emmanuel Macron a partagé.
Nicolas Sarkozy a posé des termes très clairs pour maintenir la présence européenne. Mais on ne peut pas être seul en Afghanistan.
Non,
nous n'avons pas eu l'action diplomatique.
Alors, je voudrais vous poser une question.
Que ce soit au niveau européen, pour faire en sorte que les puissances occidentales, toutes ensemble, la France seule ne pouvait pas le faire.
Oui.
C'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Mais il a dit, pour autant, l'importance de la présence occidentale pour faire en sorte qu'il y ait un État constitué qui s'oppose à un État islamique.
Oui, mais un échec au bout.
À cet Émirat islamique qui va avoir des conséquences.
Alors comment, Éric Ciotti, pouvez-vous demander aujourd'hui l'envoi d'armes au Panjshir alors que depuis 20 ans, on envoie des armes en Afghanistan, que les Soviétiques ont envoyé des armes en Afghanistan, se sont battus en Afghanistan, ils ont été chassés, les Américains ont été chassés, nous avons été chassés. À quoi ça sert d'envoyer des armes qui pourraient se retrouver dans les mains des talibans, rapidement, avec
Quelle est l'alternative ?
Pourquoi demander cela ?
Laisser ces hommes et ces femmes extrêmement courageux se faire massacrer ? Laisser les femmes être soumises à la loi de la charia ? Les couples adultères lapidés ? C'est ça le régime qui est en place. Dans ce déshonneur, il y a un homme qui se lève, c'est le fils du commandant Massoud. C'est une voix extraordinaire, il est courageux, est-ce qu'on va l'abandonner, ayons un peu de dignité dans ce moment si tragique. C'est en tout cas ce que j'ai voulu dire au président Macron, avec une vingtaine de mes collègues députés de l'Assemblée nationale française, qui souhaitent qu'on soutienne, qu'on n'abandonne pas le fils du commandant Massoud.
Vous connaissez un peu l'Afghanistan, la géographie, ça représente quoi le Panjshir ? En Afghanistan.
Bien sûr, mais tout est aussi dans le symbole.
Oui.
Renoncer, se retirer.
C'était le symbole après le 11 septembre aussi.
Abandonner.
Rappelez-vous.
Voilà. Mais ce choix aujourd'hui, il est terrifiant. C'est aussi un des éléments
d'une
motivation de ma candidature.
Est-ce qu'il faut aujourd'hui
cette menace qui monte ?
Oui.
Cette menace islamiste.
Je comprends, mais est-ce qu'il faut dialoguer avec les talibans aujourd'hui ?
Elle est là-bas. Bien sûr que non.
Demande Angela Merkel.
J'ai été très chaud, mais Angela Merkel s'est beaucoup trompée. Rappelons-nous aussi ses erreurs sur l'accueil des migrants en Europe en 2015. Dans le flux de ces migrants, n'oublions pas qu'il y avait tous les terroristes, enfin en tout cas une partie d'entre eux, du Bataclan. Ne cédons pas à l'émotion. Quand j'entends Jean-Yves Le Drian parler de gouvernement taliban inclusif, on croit rêver, mais quelle naïveté. Voilà, on est face à des hommes qui veulent nous détruire. qui veulent détruire notre civilisation, qui veulent détruire la civilisation judéo-chrétienne. D'ailleurs, je proposerai dans mon programme l'inscription dans la Constitution de nos origines chrétiennes aussi. Je crois que c'est un combat, c'est la guerre du siècle.
Et vous proposez aussi un référendum sur l'immigration.
Bien sûr. Aujourd'hui...
Quand et quelle question ?
Aujourd'hui, un référendum sur beaucoup de sujets. Pour moi, la méthode de gouvernement, elle doit, comme l'avait fait le général de Gaulle, réhabiliter le référendum. Aujourd'hui, on assiste à quoi ? À une perte de crédibilité terrible de la parole publique. Pourquoi il y a des manifestations sur le pass sanitaire ? Parce qu'une partie des Français ne croit plus en ce qui est dit, ne croit plus en la parole publique. Et donc, il faut qu'ils puissent se réapproprier la décision, décider eux-mêmes. Moi, je propose que le jour des élections législatives, la présidentielle aura lieu en avril, législatives auront lieu en juin. Ce même jour, il y a un référendum qui pose des questions très simples sur...
L'immigration.
L'arrêt du regroupement familial.
Oui, non.
Ou non. Moi, je propose qu'on arrête l'immigration familiale.
Plus de regroupement familial.
Un moratoire.
Plus de familles réunies.
Un moratoire sur plusieurs années sur l'immigration. Très clairement. Le fait de
C'est-à-dire un moratoire.
Le fait
d'immigration zéro sur plusieurs années.
Le fait d'arrêter, en tout cas d'avoir des quotas migratoires.
Oui.
Pour avoir des. J'ai déposé des propositions de loi à l'Assemblée nationale.
Oui, je sais. Oui.
Là-dessus, mais elles se heurtent tous. Un problème constitutionnel. Il faudra un référendum aussi sur la rétention des terroristes, sur l'expulsion des étrangers. Aujourd'hui, la France a perdu sa souveraineté. On est prisonnier d'engagements qui viennent d'ailleurs de jurisprudence, d'un juridisme qui fait que les gouvernements ne peuvent plus agir. Pour lever ces obstacles, il n'y a qu'un moyen, que le peuple le décide, parce que le peuple, il peut être constituant. Et c'est pour cela que je crois beaucoup au référendum. Il faudra qu'il y en ait plusieurs. Il faudra banaliser ces référendums. On peut avoir des méthodes de vote, comme cela se fait en Suisse, simplifiées, y compris par voie électronique. Pourquoi pas ? Mais qu'il y ait cette décision. Parce qu'autrement, on a cette coupure, l'abstention, la perte de crédibilité, le fait qu'on laisse des voix délirantes s'approprier des sujets, comme c'est le cas aujourd'hui sur la crise sanitaire.
Sur la crise sanitaire, j'allais y venir. Est-ce que le gouvernement, le Covid, doit, par la loi, obliger les policiers à se faire vacciner ?
Moi, j'ai voté la loi.
Oui.
Sur le pass sanitaire.
Oui.
On n'était pas.
Vous défendez le pass sanitaire.
On n'était pas. Oui. J'ai voté la loi.
Oui, oui. Vous le défendez.
Il y a six députés républicains qui l'ont voté.
Je sais.
J'en faisais partie. Parce que je crois en la science.
Oui.
Je crois au progrès. La France est un grand pays. C'est le pays de Pasteur. Quand je vois aujourd'hui ces délires sur anti-vaccins qui conduisent à des décès, à des morts, je m'élève contre ça. Il faut aller vers la science. Il faut aller vers le progrès. Donc oui, aujourd'hui, les professions qui sont en contact avec le public, ça doit être le cas aussi des enseignants, je pense, doivent être vaccinés.
Obligatoirement vaccinés.
La solution, c'est le vaccin.
Donc vous dites obligatoirement vaccinés, les enseignants, les policiers, tous ceux qui sont en contact.
Absolument. Absolument.
Absolument. Bien. Dernier mot, parce que le temps passe, Éric Ciotti. Je voudrais revenir sur les incidents Nice-Marseille. Est-ce que le président de l'OGC Nice a été agressé par le président de l'OM ?
Le président de l'OM a eu un comportement en tribune très agressif.
C'est-à-dire ?
Très agressif.
C'est-à-dire agressif.
Et
qu'a-t-il fait ?
Très violent. Il a insulté.
Il a insulté qui ?
Et notamment le président de l'OGC Nice. D'ailleurs, vous aurez noté hier que la Ligue a sanctionné... D'abord, je condamne toute forme de violence.
Oui.
La violence n'a pas sa place dans le sport. L'OGC Nice est un club que j'aime.
Oui.
C'est un beau club qui a fait des efforts considérables. Il n'y a eu aucune violence au cours des dernières années dans un stade magnifique. Le président River est quelqu'un de très responsable. Voilà. Et
il a été insulté par le président de l'OM.
Absolument. Les témoins qui étaient là en attestent.
C'est-à-dire qu'il insulte.
Mais c'est à la Ligue de le dire. En tout cas, ce que je note et qui va plutôt dans le sens du soutien que j'ai apporté aux dirigeants responsables de l'OGC Nice, la sanction qui est intervenue hier est contre
première sanction.
Un des dirigeants de l'OM,
oui,
qui a eu un comportement,
l'un des adjoints de l'entraîneur,
violent,
préparateur physique,
et très agressif.
Oui, huis clos pour le prochain match de Nice. Est-ce que, je ne sais pas. Pour l'instant, la Ligue n'a pas décidé. Enfin, la commission de discipline, c'est pas la Ligue, commission de discipline n'a pas décidé pour le résultat du match. Mais Nice, un match gagné pour vous?
En tout cas, moi, je regrette.
Alors que les incidents ont eu lieu dans le stade de Nice.
Je regrette le comportement de. Ou deux, d'une poignée de supporters.
Un ou deux, non, plus qu'un ou deux.
Celui qui a eu ce geste, notamment de lancer cette bouteille sur Payet, qui est inqualifiable, insupportable. La justice en est saisie, elle fera son travail. Le président de l'OGC Nice a dit qu'ils assumeraient ses responsabilités. Mais non, n'en rajoutons pas. Sportivement, l'OGC Nice avait gagné le match.
Merci Eric Ciotti, 8h54. Vous êtes sur RMC et sur BFM TV.